Chapitre 3. La vieille salle. Près de l'abbaye de Westminster, il y avait un antique palais normand qui fut brûlé sous Henri VIII. Il en resta deux ailes. Édouard VI mit dans l'une la chambre des lords et dans l'autre la chambre des communes. Ni les deux ailes, ni les deux salles n'existent maintenant. On a rebâti tout cela. Nous l'avons dit, et il faut y insister, nulle ressemblance entre la chambre des lords d'aujourd'hui et la chambre des lords de jadis. On a démoli l'ancien palais, ce qui a un peu démoli les anciens usages. Les coups de pioche dans les monuments ont leur contre-coup dans les coutumes et les chartes. Une vieille pierre ne tombe pas sans entraîner une vieille loi. Installez dans une salle ronde le Sénat d'une salle carrée, il sera autre. Le coquillage changé déforme le mollusque. Si vous voulez conserver une vieille chose, humaine ou divine, code ou dogme, patriatia ou sacerdoce, n'en refaites rien à neuf, pas même l'enveloppe. Mettez des pièces tout au plus. Par exemple, le jésuitisme est une pièce mise au catholicisme. Traitez les édifices comme vous traitez les institutions. Les ombres doivent habiter les ruines. Les puissances décrépites sont mal à l'aise dans les logis fraîchement décorés. Aux institutions haillons, il faut les palais masures. Montrer l'intérieur de la chambre des lords d'autrefois, c'est montrer de l'inconnu. L'histoire, c'est la nuit. En histoire, il n'y a pas de second plan. La décroissance et l'obscurité s'emparent immédiatement de tout ce qui n'est plus sur le devant du théâtre. Décor enlevé, effacement, oubli. Le passé a un synonyme, l'ignorer. Les pairs d'Angleterre siégeaient, comme cour de justice, dans la grande salle de Westminster et, comme haute chambre législative, dans une chambre spéciale nommée Maison des Lords, House of the Lords. Outre la cour des pairs d'Angleterre, qui ne s'assemble que convoquée par la couronne, les deux grands tribunaux anglais, inférieurs à la cour des pairs, mais supérieure à toute autre juridiction, siégeait dans la grande salle de Westminster. Au haut bout de cette salle, ils habitaient deux compartiments qui se touchaient. Le premier tribunal était la cour du banc du roi, que le roi était censé présider. Le deuxième était la cour de chancellerie, que le chancelier présidait. L'un était cour de justice, l'autre était cour de miséricorde. C'était le chancelier qui conseillait au roi les grâces. Rarement. Ces deux cours, qui existent encore, interprétaient la législation et la refaisaient un peu. L'art du juge est de menuiser le code en jurisprudence. Industrie d'où l'équité se tire comme elle peut. La législation se fabriquait et s'appliquait en ce lieu sévère, la grande salle de Westminster. Cette salle avait une voûte de châtaignier où ne pouvait se mettre les toiles d'araignée. C'est bien assez qu'elles se mettent dans les lois. Siéger comme cour et siéger comme chambre, c'est deux. Cette dualité constitue le pouvoir suprême. Le long parlement, qui commença le 3 novembre 1640, sentit le besoin révolutionnaire de ce double glaive. Aussi se déclara-t-il, comme une chambre des pairs, pouvoir judiciaire en même temps que pouvoir législatif. Ce double pouvoir était immémorial dans la chambre des lords, nous venons de le dire. Juge, les lords occupaient Westminster Hall. Législateur, ils avaient une autre salle. Cette autre salle, proprement dite chambre des lords, était oblongue et étroite. Elle avait pour tout éclairage quatre fenêtres profondément entaillées dans le comble et recevant le jour par le toit. Plus, au-dessus du dais royal, un œil de bœuf à six vitres avec rideau. Le soir, pas d'autre lumière que 12 demi-candélabres appliqués sur la muraille. La salle du Sénat de Venise était moins éclairée encore. Une certaine ombre plaît à ces hiboux de la toute-puissance. Sur la salle où s'assemblaient les lords, s'arrondissait avec des plans polyédriques une haute voûte à caissons dorés. Les communes n'avaient qu'un plafond plat. Tout a un sens dans les constructions monarchiques. À une extrémité de la longue salle des lords était la porte. À l'autre, en face, le trône. À quelques pas de la porte, la barre, coupure transversale, sorte de frontière marquant l'endroit où finit le peuple et où commence la seigneurie. À droite du trône, une cheminée, blasonnée au pinacle, offrait deux bas-reliefs de marbre, figurant l'un la victoire de Cosworth sur les Bretons en 572, l'autre le plan géométral du bourg de Dunstable, lequel n'a que 4 rues, parallèles aux 4 parties du monde. 3 marches exhaussaient le trône. Le trône était dit « chaise royale ». Sur les 2 murs, se faisant vis-à-vis, se déployait, en tableaux successifs, une vaste tapisserie donnée au lord par Élisabeth et représentant toute l'aventure de l'Armada depuis son départ d'Espagne jusqu'à son naufrage devant l'Angleterre. Les hauts accastillages des navires étaient tissés en fils d'or et d'argent qui, avec le temps, avaient noirci. À cette tapisserie, coupée de distance en distance par les candélabres appliques, étaient adossés à droite du trône 3 rangs de bancs pour les évêques, à gauche 3 rangs de bancs pour les ducs, les marquises et les comtes, sur gradins et séparés par des montoirs. Sur les 3 bancs de la première section s'asseyaient les ducs, sur les 3 bancs de la deuxième, les marquis, sur les 3 bancs de la troisième, les comtes. Le banc des vicomtes en équerre faisait face au trône, et derrière, entre les vicomtes et la barre, il y avait 2 bancs pour les barons. Sur le haut banc à droite du trône étaient les 2 archevêques, Canterbury et York. Sur le banc intermédiaire, 3 évêques, Londres, Durham et Winchester. Les autres évêques sur le banc d'en bas. Il y a entre l'archevêque de Canterbury et les autres évêques cette différence considérable qu'il est, lui, évêque par la divine providence, tandis que les autres ne le sont que par la divine permission. À droite du trône, on voyait une chaise pour le prince de Galles, et à gauche, les pliants pour les ducs royaux. Et en arrière de ces pliants, un gradin pour les jeunes pairs mineurs, n'ayant point encore séance à la chambre. Force, fleurs, de lys partout. Et le vaste écusson d'Angleterre sur les 4 murs, au-dessus des pairs comme au-dessus du roi. Les fils de pairs et les héritiers de Péri assistaient aux délibérations, debout derrière le trône, entre le dais et le mur. Le trône au fond, et des 3 côtés de la salle, les 3 rangs des bancs des pairs, laissaient libre un large espace carré. Dans ce carré que recouvrait le tapis d'État, armoriés d'Angleterre, il y avait 4 sacs de laine, un devant le trône, où siégeait le chancelier entre la masse et le sceau, un devant les évêques, où siégeaient les juges conseillers d'État, ayant séance et non voix, un devant les ducs, marquises et comtes, où siégeaient les secrétaires d'État, un devant les vicomtes et barons, où étaient assis le clerc de la couronne et le clerc du Parlement, et sur lequel écrivaient les 2 sous-clercs à genoux. Au centre du carré, on voyait une large table drapée, chargée de dossiers, de registres, de sommiers, avec des massifs encriers d'orfèvrerie et de hauts flambeaux aux 4 angles. Les pairs prenaient séance en ordre chronologique, chacun suivant la date de la création de sa pairie. Ils avaient rang selon le titre, et dans le titre, selon l'ancienneté. À la barre se tenait l'huissier de la Verge Noire, debout, sa baguette à la main. En dedans de la porte, l'officier de l'huissier et en dehors, le crieur de la Verge Noire, ayant pour fonction d'ouvrir les séances de justice par le cri « Oyez !» en français, poussé trois fois en appuyant solennellement sur la première syllabe. Près du crieur, le sergent porte-masse du chancelier. Dans les cérémonies royales, les pères temporels avaient la couronne en tête et les pères spirituels la mitre. Les archevêques portaient la mitre à couronne ducale et les évêques, qui ont rang après les vicomtes, la mitre à tortille de baron. Remarque étrange et qui est un enseignement, ce carré formé par le trône, les évêques et les barons, et dans lequel sont des magistrats à genoux, c'était l'ancien Parlement de France sous les deux premières races. Même aspect de l'autorité en France et en Angleterre. Incmar, dans le « De ordinatione sacri palati », décrit en 853 la Chambre des Lords en séance à Westminster au XVIIIe siècle. Sorte de bizarre procès-verbal fait 900 ans d'avance. Qu'est l'histoire ? Un écho du passé dans l'avenir. Un reflet de l'avenir sur le passé. L'assemblée du Parlement n'était obligatoire que tous les 7 ans. Les lords délibéraient en secret, porte fermée. Les séances des communes étaient publiques. La popularité semblait à diminution. Le nombre des lords était illimité. Nommer des lords, c'était la menace de la royauté. Moyen de gouvernement. Au commencement du XVIIIe siècle, la Chambre des Lords offrait déjà un très fort chiffre. Elle a grossi encore depuis. Délayer l'aristocratie est une politique. Élisabeth fit peut-être une faute en condensant la pairie dans 65 lords. La seigneurie moins nombreuse est plus intense. Dans les assemblées, plus il y a de membres, moins il y a de têtes. Jacques II l'avait senti en portant la Chambre haute 188 lords. 186, si l'on défalque de ses péris les deux duchesses de l'alcôve royale, Portsmouth et Cleveland. Sous Anne, le total des lords, y compris les évêques, était de 207. Sans compter le duc de Cumberland, mari de la reine, il y avait 25 ducs, dont le premier, Norfolk, ne siégeait point, étant catholique, et dont le dernier, Cambridge, prince électoral de Hanovre, siégeait, quoique étranger. Winchester, qualifié premier et seul marquis d'Angleterre, comme Astorga, seul marquis d'Espagne, était absent, vu qu'il était jacobite. Il y avait 5 marquis, dont le premier était Lindsay et le dernier Lothian. 79 comtes, dont le premier était Derby et le dernier Hisley. 9 vicomtes, dont le premier était Hereford et le dernier Lonsdale. Et 62 barons, dont le premier était Abergavenny et le dernier Hervé. Lord Hervé, étant le dernier baron, était ce qu'on appelait le puiné de la chambre. Derby, qui, étant primé par Oxford, Shrewsbury et Kent, n'était que le 4e sous Jacques II, était devenu sous Anne le premier des comtes. 2 noms de chanceliers avaient disparu de la liste des barons. Verulam, sous lequel l'histoire retrouve Bacon, et Wem, sous lequel l'histoire retrouve Jeffreys. Bacon, Jeffreys, noms diversement sombres. En 1705, les 26 évêques n'étaient que 25, le siège de Chester étant vacant. Parmi les évêques, quelques-uns étaient de très grands seigneurs. Ainsi, William Talbot, évêque d'Oxford, chef de la branche protestante de sa maison. D'autres étaient des docteurs éminents, comme John Sharp, archevêque d'York, ancien doyen de Norwich, le poète Thomas Poit, évêque de Rochester, bonhomme apoplectique, et cet évêque de Lincoln, qui devait mourir archevêque de Canterbury, Wake, l'adversaire de Bossuet. Dans les occasions importantes, et lorsqu'il y avait lieu de recevoir une communication de la couronne à la chambre haute, toute cette multitude auguste, en robe, en perruque, avec coiffe de prélature ou chapeaux à plumes, alignait et étageait ses rangées de têtes dans la salle de la pairie, le long des murs où l'on voyait vaguement la tempête exterminer l'armada. Sous-entendu, tempête aux ordres de l'Angleterre. Chapitre 4. La vieille chambre. Toute la cérémonie de l'investiture de Gwynplaine, depuis l'entrée sous le King's Gate jusqu'à la prise du test dans le rond-point vitré, s'était passée dans une sorte de pénombre. Lord William Cowper n'avait point permis qu'on lui donnât, à lui, chancelier d'Angleterre, des détails trop circonstanciés sur la défiguration du jeune Lord Fermain Clancharlie, trouvant au-dessous de sa dignité de savoir qu'un père n'était pas beau, et se sentant amoindri par la hardiesse qu'aurait un inférieur de lui apporter des renseignements de cette nature. Il est certain qu'un homme du peuple dit avec plaisir « Ce prince est bossu ». Donc, être difforme pour un lord, c'est offensant. Aux quelques mots que lui en avait dit la reine, le lord chancelier s'était borné à répondre « Un seigneur a pour visage la seigneurie ». Sommairement et sur les procès-verbaux qu'il avait dû vérifier et certifier, il avait compris. De là, des précautions. Le visage du nouveau lord pouvait, à son entrée dans la chambre, faire une sensation quelconque. Il importait d'obvier à cela. Le lord chancelier avait pris ses mesures. Le moins d'événements possible, c'est l'idée fixe et la règle de conduite des personnages sérieux. La haine des incidents fait partie de la gravité. Il importait de faire en sorte que l'admission de Gwynplaine passât sans encombre, comme celle de tout autre héritier de Perry. C'est pourquoi le lord chancelier avait fixé la réception de Lord Fermain Clancharlie à une séance du soir. Le chancelier étant portier, quoda modo ostiarius, disent les chartes normandes, januarum cancellorum quae potestas, dit Tertullien. Il peut officier en dehors de la chambre sur le seuil, et Lord William Cowper avait usé de son droit en accomplissant dans le rond-point vitré les formalités d'investiture de Lord Fermain Clancharlie. De plus, il avait avancé l'heure pour que le nouveau père fît son entrée dans la chambre avant même que la séance fût commencée. Quant à l'investiture d'un père sur le seuil et en dehors de la chambre même, il y avait des précédents. Le premier baron héréditaire, créé par patente, John de Beauchamp, de Oldcastle, fait par Richard II en 1387, baron de Kidderminster, fut reçu de cette façon. Du reste, en renouvelant ce précédent, le lord chancelier se créait à lui-même un embarras, dont il vit l'inconvénient moins de 2 ans après, lors de l'entrée du vicomte Newhaven à la chambre des lords. Myope, comme nous l'avons dit, Lord William Cowper s'était aperçu à peine de la difformité de Gwynplaine. Les deux lords parrains, pas du tout. C'étaient deux vieillards presque aveugles. Le lord chancelier les avait choisis exprès. Il y a mieux. Le lord chancelier, n'ayant vu que la stature et la prestance de Gwynplaine, lui avait trouvé fort bonne mine. Au moment où les doorkeepers avaient ouvert devant Gwynplaine la grande porte à 2 battants, il y avait à peine quelques lords dans la salle. Ces lords étaient presque tous vieux. Les vieux dans les assemblées sont les exacts, de même que près des femmes, ils sont les assidus. On ne voyait au banc des ducs que 2 ducs, l'un tout blanc, l'autre gris. Thomas Osborne, duc de Leeds, et Schoenberg, fils de ce Schoenberg, allemand par la naissance, français par le bâton de maréchal, et anglais par la pairie, qui, chassé par l'édit de Nantes, après avoir fait la guerre à l'Angleterre comme Français, fit la guerre à la France comme Anglais. Au banc des lords spirituels, il n'y avait que l'archevêque de Canterbury, primat d'Angleterre, tout en haut. Et en bas, le docteur Simon Patrick, évêque d'Ely, causant avec Evelyne Pierrepont, marquise de Dorchester, qui lui expliquait la différence entre un gabion et une courtine, et entre les palissades et les fraises, les palissades étant une rangée de poteaux devant les tentes, destinées à protéger le campement, et les fraises étant une collerette de pieux pointus sous le parapet d'une forteresse empêchant l'escalade des assiégeants et la désertion des assiégés. Et le marquis enseignait à l'évêque de quelle façon on fraise une redoute en mettant les pieux moitié dans la terre et moitié dehors. Thomatine, vicomte Weymouth, s'était approché d'un candélabre et examinait un plan de son architecte pour faire à son jardin de Long Leat en Whiteshire une pelouse dite « gazon coupé », moyennant des carreaux de sable jaune, de sable rouge, de coquilles de rivière et de fines poudres de charbon de terre. Au banc des vicomtes, il y avait un pêle-mêle de vieux lords, Essex, Osulstone, Peregrine, Osborne, William Julestein, comte de Rochefort, parmi lesquels quelques jeunes, de la faction qui ne portait pas perruque, entourant Price d'Evreux, vicomte Hereford, et discutant la question de savoir si une infusion de ou des Appalaches est du thé. « À peu près, » disait Osborne. « Tout à fait, » disait Essex. Ce qui était attentivement écouté par Paulet de Saint John, cousin de Bolingbroke, dont Voltaire plus tard a été un peu l'élève, car Voltaire, commencé par le père Porré, a été achevé par Bolingbroke. Au banc des marquis, Thomas de Guay, marquis de Kent, lord chambellan de la reine, affirmait à Robert Bertie, marquis de Lindsay, lord chambellan d'Angleterre, que c'était par deux Français réfugiés, M. Lecoq, autrefois conseiller au Parlement de Paris, et M. Ravenel, gentilhomme breton, qu'avait été gagné le gros lot de la grande loterie anglaise en 1614. Le comte de Wemyss lisait un livre intitulé « Pratique curieuse des oracles des Sibylles ». John Campbell, comte de Greenwich, fameux par son long menton, sa gaieté et ses 87 ans, écrivait à sa maîtresse. Lord Chandos se faisait les ongles. La séance qui allait suivre, devant être une séance royale, où la couronne serait représentée par commissaire, deux assistants doorkeepers disposaient en avant du trône un banc de velours couleur feu. Sur le deuxième sac de laine était assis le maître des rôles, Sacrorum Scriniorum Magister, lequel avait alors pour logis l'ancienne maison des Juifs convertie. Sur le quatrième sac, les deux sous-clercs à genoux feuilletaient des registres. Cependant, le lord chancelier prenait place sur le premier sac de laine. Les officiers de la chambre s'installaient, les uns assis, les autres debout. L'archevêque de Canterbury se levait, disait la prière, et la séance commençait. Gwynplaine était déjà entré depuis quelque temps, sans qu'on eût pris garde à lui. Le deuxième banc des barons, où était sa place, étant contigu à la barre, il n'avait eu que quelques pas à faire. Les deux lords, ses parrains, s'étaient assis à sa droite et à sa gauche, ce qui avait à peu près masqué la présence du nouveau venu. Personne n'étant averti, le clerc du Parlement avait lu à demi-voix, et pour ainsi dire chuchoté, les diverses pièces concernant le nouveau lord. Et le lord chancelier avait proclamé son admission au milieu de ce qu'on appelle dans les comptes rendus l'inattention générale. Chacun causait. Il y avait dans la chambre ce brouhaha pendant lequel les assemblées font toutes sortes de choses crépusculaires, qui quelquefois les étonne plus tard. Gwynplaine s'était assis, silencieusement, tête nue, entre les deux vieux pères, Lord Fitzwalter et Lord Arundel. Ajoutons que Barkilphedro, renseigné à fond comme un espion qu'il était, et déterminé à réussir dans sa machination, avait dans ses dires officiels, en présence du Lord Chancelier, atténué dans une certaine mesure la difformité de Lord Fermain Clancharlie, en insistant sur ce détail que Gwynplaine pouvait à volonté supprimer l'effet de rire et ramener au sérieux sa face défigurée. Barkilphedro avait probablement même exagéré cette faculté. D'ailleurs, au point de vue aristocratique, qu'est-ce que cela faisait? Lord William Cowper n'était-il pas le légiste auteur de la maxime « En Angleterre, la restauration d'un père importe plus que la restauration d'un roi. » Sans doute, la beauté et la dignité devraient être inséparables. Il est fâcheux qu'un lord soit contrefait, et c'est là un outrage du hasard. Mais, insistons-y, en quoi cela diminue-t-il le droit? Le lord chancelier prenait des précautions et avait raison d'en prendre, mais, en somme, avec ou sans précaution, qui donc pouvait empêcher un père d'entrer à la chambre des pairs? La seigneurie et la royauté ne sont-elles pas supérieures à la difformité et à l'infirmité? Un cri de bête fauve n'avait-il pas été héréditaire comme la pairie elle-même dans l'antique famille, éteinte en 1347, des Cumins, comte de Buchan, au point que c'était au cri de tigre qu'on reconnaissait le père d'Écosse? Ces hideuses taches de sang au visage empêchèrent-elles César Borgia d'être duc de Valentinois? La cécité empêcha-t-elle Jean de Luxembourg d'être roi de Bohême? La gibosité empêcha-t-elle Richard III d'être roi d'Angleterre? À bien voir le fond des choses, l'infirmité et la laideur acceptées avec une hautaine indifférence, loin de contredire la grandeur, l'affirment et l'approuvent. La seigneurie a une telle majesté que la difformité ne la trouble point. Ceci est l'autre aspect de la question, et n'est pas le moindre. Comme on le voit, rien ne pouvait faire obstacle à l'admission de Gwynplaine, et les précautions prudentes du lord chancelier, utiles au point de vue inférieur de la tactique, étaient de luxe au point de vue supérieur du principe aristocratique. En entrant, selon la recommandation que lui avait faite le roi d'armes et que les deux lords parrains lui avaient renouvelée, il avait salué la chaise royale. Donc, c'était fini. Il était lord. Cette hauteur, sous le rayonnement de laquelle, toute sa vie, il avait vu son maître Ursus se courber avec épouvante, ce sommet prodigieux, il l'avait sous les pieds. Il était dans le lieu éclatant et sombre de l'Angleterre. Vieille cime du mont féodal, regardée depuis 6 siècles par l'Europe et l'histoire. Aurore effrayante d'un monde de ténèbres. Son entrée dans cette auréole avait eu lieu, entrée irrévocable. Il était là, chez lui. Chez lui, sur son siège, comme le roi sur le sien. Il y était, et rien désormais ne pouvait faire qu'il n'y fût pas. Cette couronne royale qu'il voyait sous ce dais était sœur de sa couronne à lui. Il était le père de ce trône. En face de la majesté, il était la seigneurie, moindre mais semblable. Hier, qu'était-il? Histrion. Aujourd'hui, qu'était-il? Prince. Hier, rien. Aujourd'hui, tout. Confrontation brusque de la misère et de la puissance, s'abordant face à face, au fond d'un esprit, dans une destinée, et devenant tout à coup les deux moitiés d'une conscience. Deux spectres, l'adversité et la prospérité, prenant possession de la même âme et chacun l'attirant à soi. Partage pathétique d'une intelligence, d'une volonté, d'un cerveau, entre ces deux frères ennemis, le fantôme pauvre et le fantôme riche. Abel et Caïn dans le même homme. Chapitre 5. Causeries altières. Peu à peu, les bancs de la chambre se garnirent. Les lords commencèrent à arriver. L'ordre du jour était le vote du bill augmentant de 100 000 livres sterling la dotation annuelle de Georges de Danemark, duc de Cumberland, mari de la reine. En outre, il était annoncé que divers bills consentis par Sa Majesté allaient être apportés à la Chambre par des commissaires de la couronne ayant pouvoir et charge de les sanctionner, ce qui érigeait la séance en séance royale. Les pairs avaient tous leurs robes de parlement, par-dessus leur habit de cour ou de ville. Cette robe, semblable à celle dont était revêtu Gwynplaine, était la même pour tous, sinon que les ducs avaient 5 bandes d'hermine avec bordure d'or, les marquis 4, les comtes et les vicomtes 3, et les barons 2. Les lords entraient par groupes. On s'était rencontrés dans les couloirs, on continuait les dialogues commencés. Quelques-uns venaient seuls. Les costumes étaient solennels, les attitudes point, ni les paroles. Tous, en entrant, saluaient le trône. Les pairs affluaient. Ce défilé de noms majestueux se faisait à peu près sans cérémonial, le public étant absent. Leicester entrait et serrait la main de Lichfield, puis Charles Mordeau, comte de Petersborough et de Monmouth, l'ami de Locke, sur l'initiative duquel il avait proposé la refonte des monnaies. Puis Charles Campbell, comte de Loudoun, prêtant l'oreille à Fulgreville, Lord Brooke. Puis Dorme, comte de Caernarvon, puis Robert Sutton, baron Lexington, fils du Lexington qui avait conseillé à Charles II de Chastis. Historiographe assez mal avisé pour pouvoir être historien. Puis Thomas Bellasyse, vicomte Falconberg, ce beau vieux. Et ensemble, les 3 cousins, Howard, comte de Bindo, Bower Howard, comte de Berkshire, et Stafford Howard, comte de Stafford. Puis John Lovelace, baron Lovelace, dont la pairie éteinte en 1736, permit à Richardson d'introduire Lovelace dans son livre et de créer sous ce nom un type. Tous ces personnages, diversement célèbres dans la politique ou la guerre, et dont plusieurs honorent l'Angleterre, riaient et causaient. C'était comme l'histoire vue en négligé. En moins d'une demi-heure, la chambre se trouva presque au complet. C'était tout simple, la séance étant royale. Ce qui était moins simple, c'était la vivacité des conversations. La chambre, si assoupie tout à l'heure, était maintenant en rumeur, comme une ruche inquiétée. Ce qui l'avait réveillé, c'était l'arrivée des lords en retard. Ils apportaient du nouveau. Chose bizarre, les pairs, qui, à l'ouverture de la séance, étaient dans la chambre, ne savaient point ce qui s'y était passé, et ceux qui n'y étaient pas le savaient. Plusieurs lords arrivaient de Windsor. Depuis quelques heures, l'aventure de Gwynplaine s'était ébruitée. Le secret est un filet. Qu'une maille se rompe, tout se déchire. Dès le matin, par suite des incidents racontés plus haut, toute cette histoire d'une pairie retrouvée sur un tréteau et d'un bateleur reconnu lord avait fait éclat à Windsor, dans les privés royaux. Les princes en avaient parlé, puis les laquais. De la cour, l'événement avait gagné la ville. Les événements ont une pesanteur, et la loi du carré des vitesses leur est applicable. Ils tombent dans le public et s'y enfoncent avec une rapidité inouïe. À 7 heures, on n'avait pas à Londres vent de cette histoire. À 8 heures, Gwynplaine était le bruit de la ville. Seuls les quelques lords exacts qui avaient devancé l'ouverture de la séance ignoraient la chose, n'étant point dans la ville où l'on racontait tout, et étant dans la chambre où ils ne s'étaient aperçus de rien. Sur ce, tranquilles sur leur banc, ils étaient apostrophés par les arrivants, tout émus. « Eh bien !» disait Francis Brown, vicomte Montacute, au marquis de Dorchester.
« Quoi ? Est-ce que c'est possible ?
Quoi ?
L'homme qui rit !
Qu'est-ce que c'est, l'homme qui rit ?
Vous ne connaissez pas l'homme qui rit ?
Non. C'est un clown, un boy de la foire, un visage impossible qu'on allait voir pour dessous, un saltimbanque. Après, vous venez de le recevoir pair d'Angleterre.
L'homme qui rit, c'est vous, Milord Montacute.
Je ne ris pas, Milord Dorchester. Et le vicomte Montacute faisait un signe au clerc du Parlement qui se levait de son sac de laine et confirmait à leur seigneurie le fait de l'admission du nouveau père, plus les détails.
Tiens, 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 disait Lord Dorchester. Je causais avec l'évêque d'Ely.
Le jeune comte d'Annesley abordait le vieux Lord Eure, lequel n'avait plus que 2 ans à vivre, car il devait mourir en 1707.
« Milord Eure,
Milord Annesley,
avez-vous connu Lord Linnaeus Clancharlie ?
Un homme d'autrefois, oui.
Qui est mort en Suisse ?
Oui, nous étions parents.
Et qui avait été républicain sous Cromwell et qui était resté républicain sous Charles II.
Républicain ? Pas du tout. Il boudait. C'était une querelle personnelle entre le roi et lui. Je tiens de sources certaines que Lord Clancharlie se serait rallié si on lui avait donné la place de chancelier qu'a eu Lord Hyde.
Vous m'étonnez, Milord Eure. On m'avait dit que ce Lord Clancharlie était un honnête homme.
Un honnête homme ? Est-ce que cela existe ?
Jeune homme, il n'y a pas d'honnête homme.
Mais Caton ? Vous croyez à Caton, vous ?
Mais Aristide ?
On a bien fait de l'exiler.
Mais Thomas Morus,
on a bien fait de lui couper le cou.
Et à votre avis, Lord Clancharlie
était de cette espèce.
D'ailleurs, un homme qui reste en exil, c'est ridicule.
Il y est mort.
Un ambitieux, déçu. Oh, si je l'ai connu, je crois bien. J'étais son meilleur ami.
« Savez-vous, Milord Eure, qu'il s'était marié en Suisse ?»«
Je le sais, à peu près. »«
Et qu'il a eu de ce mariage un fils légitime ?»«
Oui, qui est mort. »«
Qui est vivant ?»«
Vivant ?»«
Vivant ?»«
Pas possible. »«
Réel, prouvé, constaté, homologué, enregistré. » »«
Mais alors ?» Ce fils va hériter de la pairie de Clancharlie ?
Il ne va pas s'en hériter.
Pourquoi ?
Parce qu'il en a hérité, c'est fait.
C'est fait ?
Tournez la tête, Milord Eure. Il est assis derrière vous au banc des barons.
Lord Eure se retournait, mais le visage de Gwynplaine se dérobait sous sa forêt de cheveux.
Tiens, disait le vieillard, ne voyant que ses cheveux. Il a déjà adopté la nouvelle mode. Il ne porte pas perruque.
Gwantam abordait Culpeper.
En voilà un qui est attrapé.
Qui ça ?
David Derrymore.
Pourquoi ça ?
Il n'est plus père.
Comment ça ?
Et Henry Overkirk, comte de Gwantam, racontait à John, baron Culpeper, toute l'anecdote. La bouteille épave portée à l'amirauté, le parchemin des comtes Pratchikos, le Iussu Regis, contresigné, Jeffreys, la confrontation dans la cave pénale de Southwark, l'acceptation de tous ces faits par le Lord Chancelier et par la Reine, la prise du test dans le rond-point vitré, et enfin l'admission de Lord Fermain Clancharlie au commencement de la séance. Et tous deux faisaient effort pour distinguer entre Lord Fitzwalter et Lord Arundel la figure dont on parlait tant du nouveau Lord, mais sans y mieux réussir que Lord Eure et Lord Annesley. Gwynplaine, du reste, soit hasard, soit arrangement de ses parrains avertis par le lord chancelier, était placé dans assez d'ombre pour échapper à la curiosité.
« Ça ! Où est-il ?»
C'était le cri de tous en arrivant, mais aucun ne parvenait à le bien voir. Quelques-uns qui avaient vu Gwynplaine à la Green Box étaient passionnément curieux, mais perdaient leur peine. Comme il arrive quelquefois qu'on embastille prudemment une jeune fille dans un groupe de douairières, Gwynplaine était comme enveloppé par plusieurs épaisseurs de vieux lords infirmes et indifférents. Des bons hommes qui ont la goutte sont peu sensibles aux histoires d'autrui. On se passait de main en main des copies de la lettre en trois lignes que la duchesse Josiane avait, affirmait-on, écrite à la reine sa sœur, en réponse à l'injonction que lui avait faite Sa Majesté d'épouser le nouveau père, l'héritier légitime des clans de Charlie, Lord Fermain. Cette lettre était ainsi conçue. « Madame, j'aime autant cela. Je pourrais avoir Lord David pour amant. » Signé Josiane. Ce billet, vrai ou faux, avait un succès d'enthousiasme. Un jeune lord, Charles d'Okehampton, baron Mohun, dans la faction qui ne portait pas perruque, le lisait et le relisait avec bonheur. Lewis de Duras, comte de Feversham, anglais qui avait de l'esprit français, regardait Mohun et souriait. « Eh bien !» s'écriait Lord Mohun. « Voilà la femme que je voudrais épouser !» Et les voisins des deux lords entendaient ce dialogue entre Duras et Mohun.
« Épouser la duchesse Josiane, Lord Mohun ?
Pourquoi pas ?
Peste ! On serait heureux !
On serait plusieurs !
Est-ce qu'on n'est pas toujours plusieurs ?
Lord Mohun, vous avez raison. En fait de femme, nous avons tous les restes les uns les autres. Qui est-ce qui a eu un commencement ?
Adam, peut-être ?
Pas même.
Au fait, Satan !
« Mon cher, concluait Lewis de Duras, Adam n'est qu'un prête-nom. Pauvre dupe, il a endossé le genre humain. L'homme a été fait et la femme par le diable. »
Hugo Cholmley, comte de Cholmley, fort légiste, était interrogé du banc des évêques par Nathael Cui, lequel était deux fois père, père temporel, étant baron Cui, et père spirituel, étant évêque de Durham.
« Est-ce possible ?» disait Cui.
« Est-ce régulier ?» disait Cholmley.
L'investiture de ce nouveau venu s'est faite hors de la chambre, reprenait l'évêque. Mais on affirme qu'il y a des précédents.
« Oui, Lord Beauchamp sous Richard II et Lord Cheney sous Élisabeth.
Et Lord Broghill sous Cromwell. »«
Cromwell ne compte pas. » »«
Que pensez-vous de tout cela ?»
Des choses diverses.
Milord, comte de Cholmley,
quel sera le rang de ce jeune Fermain Clancharlie dans la chambre ?
Milord évêque, l'interruption républicaine ayant déplacé les anciens rangs, Clancharlie est aujourd'hui situé dans la pairie entre Barnard et Somers, ce qui fait que dans un cas de tour d'opinion, Lord Fermain Clancharlie parlerait le 8e.
En vérité, un battleur de place publique.
L'incident en soi ne m'étonne point, milord évêque. Ces choses-là arrivent. Il en arrive de plus surprenantes.
Est-ce que la guerre des deux roses n'a pas été annoncée par l'assèchement subite de la rivière Ouse en Bedford le 1er janvier 1399 ?
Or, si une rivière peut tomber en sécheresse, un seigneur peut tomber dans une condition servile.
Ulysse, roi d'Ithac, fit toutes sortes de métiers. Fermain Clancharlie est resté lord sous son enveloppe d'histrion. La bassesse de l'habit ne touche point la noblesse du sang, mais la prise du test et l'investiture hors séance, quoique légale à la rigueur, peut soulever des objections.
Je suis d'avis qu'il faudra s'entendre sur la question de savoir s'il y aurait lieu plus tard à questionner en conversation d'État le Lord Chancelier. On verra dans quelques semaines ce qu'il y aura à faire.
Et l'évêque ajoutait
« C'est égal, c'est une aventure comme on n'en a pas vu depuis le comte Gesbaudus. »
Gwynplaine, l'homme qui rit, Lynn Doncaster, la Green Box, Cao vaincu, la Suisse, Chillon, les Comprachicos, l'exil, la mutilation, la République, Jeffreys, Jacques II, le Iussu Regis, la bouteille ouverte à l'amirauté, le père, Lord Linnaeus, le fils légitime, Lord Fermain, le fils bâtard, Lord David, les conflits probables, la duchesse Josiane, le Lord Chancelier, la reine, tout cela courait de banc en banc. Une traînée de poudre, c'est le chuchotement. On s'en ressassait les détails. Toute cette aventure était l'immense murmure de la chambre. Gwynplaine, vaguement, au fond du puits de rêverie où il était, entendait ce bourdonnement sans savoir que c'était pour lui. Cependant, il était étrangement attentif, mais attentif aux profondeurs, non à la surface. L'excès d'attention se tourne en isolement. Une rumeur dans une chambre n'empêche point la séance d'aller son train, pas plus qu'une poussière sur une troupe ne l'empêche de marcher. Les juges, qui ne sont à la chambre haute que de simples assistants, ne pouvant parler qu'interroger, avaient pris place sur le deuxième sac de laine, et les trois secrétaires d'État sur le troisième. Les héritiers de Péry affluaient dans leur compartiment, à la fois dehors et dedans, qui était en arrière du trône. Les pères mineurs étaient sur leur gradin spécial. En 1705, ces petits lords n'étaient pas moins de 12. Huntingdon, Lincoln, Dorset, Warwick, Bath, Burlington, Derwentwater, destiné à une mort tragique, Longueville, Lonsdale, Dudley, Edward et Carteret, ce qui faisait une marmaille de 8 comtes, de 2 vicomtes et de 2 barons. Dans l'enceinte, sur les 3 étages de banc, chaque lord avait regagné son siège. Presque tous les évêques étaient là. Les ducs étaient nombreux, à commencer par Charles Seymour, duc de Somerset, et à finir par George Augustus, prince électoral de Hanovre, duc de Cambridge, le dernier en date et par conséquent le dernier en rang. Tous étaient en ordre, selon les préséances. Cavendish, duc de Devonshire, dont le grand-père avait abrité Hardwick les 92 ans de Hobbes, Lennox, duc de Richmond, les 3 Fitzroy, le duc de Southampton, le duc de Crafton et le duc de Northumberland, Butler, duc d'Ormond, Somerset, duc de Beaufort, Beauclerc, duc de Saint-Alban, Powlett, duc de Bolton, Osborne, duc de Leeds, Wriothesley, Russell, duc de Bedford, ayant pour cri d'armes et pour devise « Que sara sara », c'est-à-dire l'acceptation des événements. Sheffield, duc de Buckingham, Manners, duc de Rutland et les autres. Ni Howard, duc de Norfolk, ni Talbot, duc de Shrewsbury, ne siégeaient étant catholiques. Ni Churchill, duc de Marlborough, notre Malbrook, qui était en guerre et battait la France en ce moment-là. Il n'y avait point alors de duc écossais. Queensberry, Montrose et Roxburgh n'ayant été admis qu'en 1707.